Cristalide, le magazine de l'addiction, vous est proposé par les encombrants.
Cristalide, c'est maintenant!
Bonjour, Cristalide, le magazine de l'addiction, vous emmène aujourd'hui aux origines des addictions, aux éléments déclencheurs.
Témoignage de vie, expression des émotions, il en est visité Yann Biva, maire de Vaupont et président de la CAPCA, communauté d'agglomération privée Centre Ardèche, qui nous apportera son regard sur les addictions et ce qui en souffre.
Mais tout de suite, mise en oreille.
Il était une fois l'histoire d'un ado à qui on proposa un simple vélo. Il refusa pas, c'était sympa. Juste une seule fois, ça ne mènerait pas au trépas.
Après cette écoute riche en émotions et forte en sens, il faut tout d'abord qu'on vous parle de l'origine de cette émission. Nico, je te laisse la parole.
Bonjour, cette émission est née en fait d'une suite logique, suite à mon parcours personnel, puisque je suis moi-même un ancien addict, peut-être encore toujours, mais en parcours de soins en tout cas. Un parcours de soins que j'ai entamé il y a environ 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant. Je suis complètement sobre de tout produit, légal ou illégal, depuis maintenant 16 mois. Et 2 raisons essentielles en fait qui nous ont amenés ici. La première, c'est que je souhaitais que le regard des personnes non addictes sur les personnes addictes ou en parcours de soins change, qu'il y ait une évolution à ce niveau-là. Et la deuxième raison, elle est plus personnelle, c'est que moi, ça me fait du bien aussi. Je crois qu'il y a un terme technique d'ailleurs, le self, je sais pas quoi, de l'auto-soin finalement. Donc je me soigne aussi moi-même en venant à la rencontre des résidents de cet établissement, voilà, de ces personnes qui sont en parcours de soins. Voilà, c'est comme ça qu'est né ce projet et ça fonctionne.
Merci Nico en tout cas pour ton engagement auprès de nous. Et donc pour ma part, je suis monitrice éducatrice donc dans un XAPA résidentiel qui accueille 11 hommes en parcours de soins. Et comme vous l'avez sûrement compris, en parcours d'addiction. Mais qui de mieux que les résidents eux-mêmes pour parler de leur parcours et des origines de leurs addictions? Les gars, je vous laisse la parole.
Ben, bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, la chanson est très équivoque. Elle me parle énormément, ça me rappelle mon parcours de vie. Je suis un supporter lyonnais, et comme on pourrait les appeler un ultra. J'ai commencé l'alcool et le cannabis à l'âge de 13 ans, en allant voir des matchs de foot, on se réunissait avec les copains et tout ça. Je n'ai jamais touché à l'héroïne, mais la cocaïne est venue quelques années plus tard. Ma vie a fait que je me suis retrouvé sans domicile fixe. On m'a proposé de la cocaïne, j'ai tout d'abord accepté, c'était dans un cadre festif. Le crack est arrivé par la suite aux fréquentations. Et je suis maintenant là depuis un peu plus d'un mois et sobre depuis quelques mois.
Merci à toi. Moi, c'est le même parcours que toi, sauf que moi, c'est dans le milieu du sport aussi. J'étais handicapé de français de ski suite à une blessure au genou. Je suis tombé dans une dépression. Donc, pour reprendre le ski, ça n'a pas été pareil parce que j'ai consommé de la cocaïne à ce moment-là. Donc, l'effet euphorie, le produit, ça m'a aidé beaucoup pour les compétitions de ski. Ensuite, suite à ça, j'étais viré de l'équipe de France. Hein, donc, je suis retombé dans la dépression, d'où la consommation. Et après, c'était dans le milieu festif, comme tout le monde, je pense. Voilà, après, je suis clean depuis 7 mois maintenant. J'ai fait une cure de sevrage de 4 semaines à Toulouse. Puis une post-cure de 3 mois au Château des Émotions à Soissons. Et me voilà ici au CTR, au centre thérapeutique résidentiel pour continuer, pour consolider l'abstinence. Voilà, mon projet ensuite, ça sera un appartement thérapeutique.
Merci beaucoup à toi. Du coup, je vais partager un petit peu mon expérience, mais c'est un peu le même schéma que mes amis. Et donc, au début, c'était festif également. On se croyait invincible. Tout était beau, tout était rose. C'était magnifique. Mais après, les problèmes de la vie arrivent. Et on finit par plonger dans le néant et le vide, la dépression.
À partir de quel moment vous avez pris conscience que ça posait un problème?
Pour ma part, j'ai perdu mon papa à l'âge de 16 ans. Donc de là, j'ai commencé à m'alcooliser, à fumer du cannabis plus régulièrement. C'était devenu quotidien. Je me suis rendu compte très rapidement que c'était un problème. Là où je voyais que ce n'était plus une envie, c'était carrément un besoin. J'avais besoin de boire et de fumer pour oublier, pour penser à autre chose.
Moi, pour ma part, c'était plutôt... je me suis retrouvé au fond du trou. J'avais plus rien. J'étais plus moi-même, je ne me reconnaissais plus. Donc, c'était heureusement qu'il y avait mon entourage qui me soutenait pour me sortir de là, parce que j'étais complètement perdu et ça m'a fait... Ça m'a secoué un peu à moi, donc j'ai voulu tout arrêter.
Ok. Du coup, moi, le déclic, ça a été, j'ai commencé à consommer énormément suite à la perte d'un enfant. Et du coup, ça m'a fait vriller, j'ai commencé à fumer du crack. Et il m'a fallu 3 mois pour me détruire. Et j'ai eu un appel à l'aide un soir, j'ai contacté ma famille et je me suis fait rapatrier de là où j'habitais, en France, pour venir me soigner. Et voilà, ça a été un déclic. Et j'espère que avoir toujours les motivations pour pouvoir vaincre ce démon.
Moi, je me rends compte d'une chose, en fait, c'est que je commence à vous connaître tous un petit peu, enfin, d'autres un petit peu moins, mais je m'aperçois, en fait, qu'il y a autant d'addictions qu'il y a d'individus et qu'il y a de situations qui ont généré ces addictions. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que n'importe qui peut tomber dans l'addiction, d'après vous? Ou est-ce qu'il y a une prédisposition à ça?
Non, pour moi, n'importe qui peut tomber addict d'un produit. Un produit ou autre chose, hein. Une addiction, c'est très vague. Ça peut être autant des choses légales comme la cigarette, l'alcool, le café, le sport, comme d'autres choses illégales. Donc on est plus ou moins amené à gérer ses émotions soi-même. Du coup, il y en a beaucoup qui se réfugient dans le travail, dans le sport, l'écriture, la lecture. Et comme je le disais tout à l'heure, du moment que ça devient un besoin et non plus une envie, là on peut parler d'addiction.
Quand on peut plus s'en passer, quoi.
C'est ça.
Pour toi, c'est pareil, t'as le même ressenti?
Moi, c'est pareil, je rejoins complètement Fabrice. Ouais, tout le monde peut tomber addict, c'est sûr. Quel que soit dans un milieu, quel que soit la vulnérabilité se joue aussi. Donc il faut faire gaffe à ça.
Ok, moi je tenais à dire que ça touche toutes les personnes, que ce soit les personnes qui soient dans la rue, l'ouvrier, le chef d'entreprise, même les politiciens, ça peut arriver. Ça touche tout le monde et tout le monde est concerné, il faut prendre conscience de ça. Essayer de se protéger.
Il était une fois
l'histoire d'un ado à qui l'on proposa un simple rideau. Il refusa pas, c'était sympa. Juste une seule fois, ça ne mènerait pas au trépas.
C'est l'heure maintenant de notre interview. Nous recevons donc M. Viva, maire de la commune de Rompon et président de la CAPCA. Tout d'abord, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous pour l'invitation et bonjour.
Bonjour. À quoi pensez-vous quand on vous parle d'addiction?
Et ben, quand on parle d'addiction, je pense aliénation, c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir... contrôler une volonté ou contrôler les choses de son esprit. Je pense à de multitudes d'addictions, parce qu'en réalité, je pense à l'addiction, c'est un petit peu tout ce qui va faire pour moi qu'on n'aura pas un comportement normal ou qu'on va mettre en avant, ou en tout cas, changer la manière de faire et en gros de vouloir assouvir quelque chose qui devient un petit peu obsessionnel et encore une fois qu'on ne contrôle pas, que ce soit l'alcool, la cigarette, la drogue. L'alcool, j'insiste beaucoup dessus parce que pour moi c'est la première des drogues qui est en vente libre, accessible, voilà, et qu'on est nombreux à consommer. La question c'est pas nécessairement sur cette addiction là la consommation en tant que telle, c'est la quantité, la maîtrise ou pas de cette consommation là mais ça peut être le sexe, les jeux vidéo, les écrans, voilà, des addictions. Finalement il y en a des dizaines et des dizaines, mais elles, pour moi, elles ont comme caractéristique commune le fait que on perd le contrôle de l'usage de cette chose-là et que donc on n'a plus tout à fait la maîtrise de soi.
Est-ce que les drogues et les dépendances vous font peur à titre de citoyenne?
Ah oui, complètement. Complètement. Moi, j'ai eu un grand-père qui a été alcoolique, qui est donc passé par les alcooliques anonymes, et connaissant cette histoire familiale, personnellement, par exemple, je sais que j'ai une attention particulière à ma consommation d'alcool, parce que c'est pernicieux et il y a un certain nombre de substances, et même pas que des substances, je pense on parlait des écrans et des téléphones, mais notre cerveau, son fonctionnement, la dopamine, enfin un certain nombre de choses qui peut sécréter, amène une certaine récompense lorsqu'on utilise certaines choses ou substances, et donc on peut vite se retrouver piégé quand on a besoin de réconfort, de se rassurer, de se féliciter, de se remercier sur l'alcool. Pour moi, la première des choses qui peuvent nous faire tomber dans l'alcoolisme, c'est notamment ce côté un peu récompense. Passer une dure journée, on va se prendre une bière. Un soir, puis deux, puis trois, puis quatre. Et ensuite, petit à petit, comme ça, on peut vite sombrer. Et si, en plus de ça, la vie fait que parfois on n'a pas toujours de la chance et parfois on n'a pas toujours de cadeaux, elle peut être vache, la vie. Et si dans ces moments vaches, on a aussi à un moment donné ces tentations-là, on peut très vite, en effet, ensuite se retrouver en grande difficulté.
Vous êtes donc maire et président de la CAPCA. Comment, personnellement, gérez-vous vos émotions concernant le stress que vos fonctions peuvent engendrer ?
Ah, très bonne question. Alors, je dirais que la politique, pour moi, ça ne me stresse pas tant que ça, en réalité. Pourquoi ? Parce que je considère que la politique, c'est un truc qu'on fait en plus de la vie courante, du travail, de la vie de famille et autres. Et on fait au mieux. Le stress, c'est peut-être de faire le mieux possible. Mais en réalité, j'essaie toujours de me décentrer en me disant que si demain la politique s'arrête, ma vie continuera. Et c'est le sens d'ailleurs de la vie politique. Et je pense que parfois, certains collègues peuvent être très stressés parce que par contre, pour certains, c'est en effet quelque chose, un investissement assez particulier et qui devient peut-être aussi addictif.
C'était là justement ma dernière question. Est-ce que vous pouvez considérer que l'engagement politique est une forme d'addiction ?
Alors, l'engagement politique, peut-être pas, encore que ça se réfléchirait. Je pense que par contre, il y a un truc très pernicieux dans la politique qui s'appelle le pouvoir. Et je pense qu'en effet, là par contre, le pouvoir peut peut relever une certaine addiction parce que permettre notamment, je pense, de créer un peu de dopamine, d'endorphine, enfin de molécules très sympas pour notre cerveau quand on a des satisfactions et quand on a la capacité de pouvoir faire. Je pense que ça peut être euphorisant et en effet, il faut. En tout cas, moi j'essaie de méditer et de réfléchir très souvent sur le pouvoir en tant que tel pour justement que ça n'en devienne pas une.
Merci à vous.
Merci, merci pour votre invitation.
Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Je suis abstinent depuis 11 mois grâce à un parcours de soins dans lequel je me suis impliqué. Je consommais de la drogue, cocaïne et alcool depuis 20 ans. Je suis né dans un petit village de montagne où rien ne me prédestinait à ce parcours chaotique. J'ai des parents aimants, une famille tout à fait normale et je n'ai jamais manqué de rien. Alors qu'est-ce qui a pu me projeter dans le parcours que je vais vous raconter ? J'étais sportif, en sport-études, et tout a basculé lorsque j'ai fréquenté le foyer des jeunes travailleurs. Car pour pratiquer ma passion, je devais aller à l'internat. À cette époque, j'ai fumé mon premier joint. Je buvais occasionnellement, car je suis né dans un bar-restaurant. L'alcool était pour moi familier. J'étais adolescent, je souffrais de l'arrachement à la montagne, car j'ai déménagé dans le sud suite à la séparation de mes parents. Jusque-là, rien d'anormal. Je consommais comme un adolescent normal. À 17 ans, j'en voulais à mes parents. Alors je suis parti de chez moi pour aller en colocation. Et là, je suis passé à l'étape supérieure. Je me mets à consommer de la cocaïne, des extasies, de la MDMA, toujours avec de l'alcool, beaucoup d'alcool. Je suis en colocation avec une personne issue d'un quartier qui est dans le deal. À cette époque, il a besoin d'un associé. Je me mets à dealer tous les jours avec lui. Il me forme, me donne les contacts et les ficelles de ce que je considère comme un métier. Je mens à ma famille à propos de mon travail, de mes activités et de mes consommations. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour consommer, pour financer mes soirées, mais je gagne de plus en plus d'argent. Marre de la ville dans laquelle je suis, je décide de prendre mon indépendance et je pars seul dans une ville voisine. Je garde mes fournisseurs, mais je vends seul maintenant. Et du coup, je consomme seul. Je m'isole de plus en plus. Je mens de plus en plus. Je laisse ma propre famille devant la porte quand ils me rendent visite tellement je suis défoncé. Je ne respecte plus rien ni personne, même plus moi-même. Je rentre dans un cercle destructeur. J'ai l'impression de toucher le fond. Mais je ne le sais pas encore, mais ça n'est que le début d'un long cauchemar. Je consomme tellement que toutes les personnes autour de moi s'effacent. Je n'arrive plus à vendre, je m'endette, je perds mon logement, et il arrive ce que je n'aurais jamais cru possible dans ma vie. Je me retrouve à la rue. Ma famille ne peut plus m'accueillir tellement mon comportement est dangereux. Je fais peur, les gens me rejettent. Je perds ma propre dignité et je ne me sens plus bas que terre. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. Pour m'en sortir, je fais l'erreur de commettre un acte irréparable pour trouver de l'argent et je suis condamné à une peine de prison. En prison, je suis presque mieux, j'ai un toit, à manger, des amis, un but et des gens qui s'occupent de moi. Bref, je sors de prison, mon cercle social toujours rompu, je me trouve encore une fois à la rue. Et je répète le schéma 3 fois. Je fais 3 peines de prison consécutives, 3 passages à la rue, pas d'amis, pas de famille, mais toujours des consommations, mais uniquement hors de prison. En prison, je ne consomme pas, je fais du sport, je me remets en forme pour la sortie. Et en juin 2025, après ma dernière peine, je décide de me soigner et d'intégrer un centre de post-cure thérapeutique. J'ai la volonté de m'en sortir, le fameux déclic. J'enchaîne avec un appartement thérapeutique, un passage en psychiatrie de 3 mois, car j'avais de grosses séquelles psychiques. Je finis aujourd'hui, sorti de cette tourmente à la fin de mon soin, dans un centre de post-cure. J'ai retrouvé un logement, du travail, une voiture et surtout ma famille. Je considère m'en être sorti, même si je devrais rester vigilant toute ma vie. Je suis peut-être sauvé, mais marqué à vie. Je remercie la vie et mon courage, et je souhaite à tous les gens addicts de trouver cette porte de sortie.
Je m'appelle Dorian, 28 ans. Je suis actuellement en cure de désintox pour arrêter la cocaïne. Je suis né sourd et muet jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, je me suis fait opérer d'une oreille droite, mais je ne me souviens pas quand j'ai mis l'appareil pour la première fois. Cela me frustre encore aujourd'hui, car jusqu'à mes presque 8 ans, je n'ai aucun souvenir du passé. Est-ce que c'est à cause de l'opération? Je ne sais pas. Durant mon enfance, j'étais quelqu'un qui aime la bagarre à cause de mon handicap, car on se moquait de mon accent et je confondais souvent le masculin et féminin, ce qui est le cas encore aujourd'hui. Au collège et le lycée, j'étais plusieurs fois viré à cause de mon comportement, mais je ne regrette pas car je me défendais. Mais j'avais beaucoup d'amis, même le proviseur m'aimait beaucoup, car j'avais une énorme opportunité dans le sport. D'ailleurs, ils ne se sont pas trompés. Je suis fils unique. J'ai grandi avec une mère infirmière, très présente, aimante et protectrice. C'est une maman en or qui a toujours fait de son mieux pour moi. Grâce à elle, je n'ai jamais manqué de rien, ni matériellement, ni affectivement. Mon père, lui, il a été plus absent sur le plan émotionnel. Il a travaillé pendant de très longues années à l'usine et s'est occupé peu de moi lorsque j'étais enfant. Je le percevais comme quelqu'un de finant et peu investi dans son rôle de père. Malgré cela, j'ai une enfance globalement très heureuse. Je me sentais en sécurité, entouré, et j'avais une vie très dynamique. Mes parents m'ont amené partout quand j'étais petit, c'est-à-dire beaucoup de voyages, Martinique, Maroc, Grèce, Espagne, Portugal, etc. Nager avec les dauphins, au Walt Disney, au Europark, que des bons souvenirs. Le sport a toujours occupé une place centrale dans ma vie. J'ai suivi un parcours sportif très exigeant. Collège sportif, puis lycéen pour la France. J'ai même évolué en équipe de France B de ski de bosse. J'ai beaucoup fait de déplacements dans toute l'Europe. Le sport était mon équilibre. Mon identité est une grande source de fierté. Malheureusement, une blessure grave, une rupture des ligaments croisés à 17 ans a marqué un tournant important. J'étais presque au bord de dépression. Heureusement que j'avais de bons entourages. Après cette blessure, la reprise n'a jamais été la même, ni physiquement, ni mentalement. J'ai ressenti une forme de perte, celle de mon niveau, de mes repères, et peut-être aussi de la personne que j'étais à travers le sport. Et c'est là que quand j'ai repris le ski, que j'ai goûté pour la première fois la cocaïne avec les potes de ski et j'avoue que c'était bon. Ma performance au ski était largement améliorée. Mais malheureusement, au dépistage, j'étais positif et donc je me suis viré de l'équipe de France. Puis, il y a environ 7 ans, j'ai commencé à consommer de la cocaïne après le ski quand j'étais à l'université de sport, STAPS. Au début, c'était uniquement festif, associé aux sorties et à la recherche de plaisir pour me surmonter mon passé d'esquive. Progressivement, la consommation a pris plus de place. Elle est devenue plus régulière, plus solitaire et s'est accompagnée d'un isolement de plus en plus important. La cocaïne n'est plus seulement un produit de fête, mais un moyen de combler un vide, de gérer certaines émotions et de fuir un mal-être. Aujourd'hui, je suis consciente de ce que cette addiction a pris le contrôle d'une partie de ma vie. La cure des détox représente pour moi une étape essentielle. C'est de me reconstruire, de comprendre mon parcours, mes blessures et de trouver un équilibre sans drogue. Avec le recul, je me raconte que je suis resté immature sur plusieurs aspects de ma vie. J'ai des difficultés à être autonome et à prendre mes responsabilités sur le long terme. J'ai tendance à reposer sur ma mère, que ce soit sur le plan matériel, affectif, surtout la gestion de certaines situations de la vie quotidienne. Ma mère a été très présente, parfois même trop protectrice. Elle ne me lâche pas facilement et reste constamment derrière moi, par inquiétude et par amour. Même si cela part d'une bonne intention, je pense que cette relation a pu freiner mon développement personnel et mon autonomie. J'ai pris l'habitude d'être aidé, parfois même porté, au lieu d'apprendre à me débrouiller seul. Aujourd'hui, je prends conscience que cette dépendance affective et ce manque d'autonomie ont pu contribuer à un mal-être, à mes difficultés à faire face aux épreuves et en partie à ma consommation de drogue. Le travail que je fais actuellement vise à devenir un adulte plus responsable, plus indépendant, capable de prendre sa vie sans se réfugier derrière les autres ou derrière les substances.
Bonjour, je me présente Enzo. Je dédie ce texte à ma famille Ariane, qui sans elle n'aurait pas vu le jour. Elle m'a aidé à garder mon cap vers mes démarches. Ce monde veut m'enseigner la peur. De A à Z, il me ment. Je te cherche mon âme en essayant de te connaître. Ma mémoire veut accroître mon âme en la soufflant sur ma comète. Plus j'avance, plus j'affronte mes résidus tristes. Je me retrouve à lutter contre mes actions autodestructrices. Du libre arbitre, mon espèce est tournée vers le démon. Je me suis égaré dans ce monde. Des rêves partis en fumée, une trêve pour trouver la sortie de cette cheminée. Je m'impose à retrouver le chemin sans que ces démons m'y opposent. Mon rêve, retrouver l'osmose entre mes rêves d'enfance et la personne que je veux devenir. Fuir cette souffrance que je ne fais que subir. Entrer en danse avec mes objectifs et mon avenir. Je ne veux plus subir, mais construire. Merci à mon étoile de me guider vers la reconstruction. J'ai pris mes résolutions, mon passé m'a servi de leçon. Il est temps pour moi d'avoir un meilleur avenir. Ailleurs, car j'ai dû fuir. J'ai parcouru des kilomètres pour retrouver une raison d'être. Mes chers auditeurs, attention aux addictions, votre personne serait en perdition, et l'addiction très salée. La solitude pèse dans ces moments où vous sombrez, ce chemin vous mènera à vous isoler. Demandez de l'aide comme je l'ai fait, gardez votre cap et ne renoncez jamais à le changer. Nous pouvons tous quitter les abîmes pour se soigner. Soyez votre meilleur ami, on en a tous besoin. Ce contrat ne sera pas signé car le combat n'est pas encore gagné.
Eh bien, ça y est! Cette première de Cristalide, votre magazine de l'addiction, est maintenant terminée.
Un grand merci à tous les encombrants qui ont réalisé cette émission. Fabrice, Mathieu, Dorian, Arthur, Cédric, Eléa, Émilie, Nico, Isa, Enzo et Idriss.
Un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute et rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission.
N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, réactions et commentaires sur notre boîte mail lesencombrants207@gmail.com.
Vous pouvez également nous retrouver en podcast sur le site de Fréquence 7, rubrique Cristalide.
En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.